À Dieu soit la gloire. Voilà, le temps est venu de méditer la parole. Et on continue sur notre étude sur les fondements. On n'a pas abandonné. On continue. Revenir aux fondements. On fait comme à chaque fois des petits rappels pour ceux qui n'ont pas vu le début, qui n'ont pas entendu le début de l'étude. Tout d'abord, au début, nous avons dit que cette étude allait être basée sur la parole. Ce qui est important, c'est de voir ce que dit la parole, pas ce que dit le siècle d'aujourd'hui, pas ce que dit la tendance, mais ce que dit la parole. D'accord ? Hein ? Et notamment, on se base sur le livre de Néhémie depuis le début de cette étude. On se basera aussi sur le livre des Actes des Apôtres. Et on a commencé par le chapitre 1 du livre de Néhémie, où on a vu trois choses, qu'on ne devait pas être dans le déni. Néhémie a vu la situation de Jérusalem, il n'a pas fait « Oh non, tout va bien ». Il a vu que ça n'allait pas. Hein, et on ne doit pas être dans le déni quand quelque chose ne va pas. Il s'est mis en prière, c'est la deuxième chose qu'il a fait. Tout commence par la prière. Et puis ensuite, il était prêt et il a accompagné les autres à se mettre à l'œuvre, au temps voulu de Dieu. Ensuite, nous avons vu qu'il était bon de reconstruire. Donc après toute cette préparation de Néhémie, il y a eu la reconstruction qui a commencé, la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et nous avons vu que quand on reconstruit, il faut prendre le temps de l'analyse, hein, il faut se poser, c'est Jésus qui le dit, quand tu veux construire une tour, ben assieds-toi, calcule. Et puis ensuite, on a vu qu'il fallait se mobiliser ou se laisser mobiliser. Il y a des meneurs et il y en a qui se laissent entraîner, peu importe, mais l'important c'est que tout le monde se lève. Néhémie a mobilisé tout le peuple. Et puis prendre chacun sa part. Ensuite, on a vu que quand on commence cette œuvre-là de restaurer les fondements, de reconstruire, il y a un combat spirituel qui va s'installer, forcément. Et on voit dans le chapitre 3 et suivant de Néhémie, de 4 plutôt de Néhémie, que eh bien, les ennemis d'Israël ne vont pas être contents de cette nouvelle de la reconstruction. Et ils vont devoir subir des attaques. Donc on voit qu'il y a la réaction de l'ennemi. On a vu qu'il y avait la réaction de l'ennemi. Elle est systématique quand on veut bien faire et quand on veut s'approcher de Dieu. Et puis, on a vu les réponses qu'on doit lui apporter. Et puis, on a vu ce que Dieu fait face à l'ennemi. Et nous savons que Dieu est plus grand que celui qui est contre nous. Amen. Puis la dernière fois, on était sur le chapitre 5 de Néhémie, sur deux fondements importants qui sont la repentance et la grâce. Hein, c'était au sujet de l'épisode où il y a eu un rappel des faits que certains avaient usé de leur pouvoir pour prendre comme esclaves chez eux en échange de prêts, de terres ou de moyens de monnayer. Et donc c'était quelque chose qui ne convenait pas à Dieu. Et Néhémie a appelé le peuple à la repentance, a vraiment demandé pardon pour ça. Puis le peuple a fait et Néhémie a dit eh ben, on va vraiment exercer la grâce, c'est-à-dire que ceux qui étaient en dette par rapport à nous, eh bien, on leur enlève toute la dette. Et c'est l'image de ce que Dieu fait vis-à-vis de nous. Amen. Et aujourd'hui, on va avancer au chapitre 8, chapitre 8 de Néhémie. Pour en venir au fondement des fondements, on a dit que cette étude était basée sur la parole, mais j'aimerais parler du fondement qu'est la parole. La parole est un fondement, un socle pour la vie chrétienne, un socle incontournable. Et malheureusement, l'ennemi est très fort pour nous expliquer que nous n'avons pas besoin de la parole et qu'on peut survivre sans la parole. Je donne souvent cette image de quelqu'un qui se priverait de manger, physiquement parlant. Au bout d'un moment, il ne pourrait plus continuer à vivre. Hein. On le sait. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais il y a des gens qui ne se nourrissent plus spirituellement et qui continuent à penser qui sont en vie spirituellement. Et ça, malheureusement, c'est plus subtil. Si vous essayez physiquement, ce sera radical. Spirituellement, vous cessez de vous nourrir et vous pouvez vous persuader que vous êtes toujours en vie. Et ça, c'est terrible. Nous l'avons évoqué, la parole est la base de notre étude, mais je voudrais vous dire que la parole, c'est d'abord le premier fondement. On a parlé l'autre mardi soir de certaines choses par rapport à l'œcuménisme, etc. Et on avait vu la définition du fondamentalisme Quand on vous dit des fondamentalistes, tout de suite, ça vous fait penser à des choses un peu terribles, hein. Terrorisme religieux, etc. Or, regardez ce qu'est la définition, la vraie définition du fondamentalisme dans le Larousse. C'est un courant théologique d'origine protestante qui admet seulement le sens littéral des Écritures. C'est une tendance à revenir au fondement de la religion. Donc, moi, je suis fondamentaliste. Voilà. Je veux revenir à la parole et rien qu'à la parole. Ce que dit la parole et rien que ce que dit la parole. Ça ne veut pas dire que ça me conduit à la violence, hein. Je parle pour moi. Je veux moi revenir à la parole. Je ne veux pas imposer aux autres de revenir à la parole. Le fondamentalisme, c'est, selon l'explication qu'on nous donne aujourd'hui, c'est des gens qui veulent revenir au fondement de leur religion, mais ils veulent l'imposer à tous. Et là, on voit que c'est pas, ça n'a jamais été l'attitude de Dieu ni de son fils Jésus lorsqu'il est venu sur terre. Il n'a rien imposé à personne. D'accord? Ok? Vous vous rappelez la prédication de dimanche dernier? C'était le culte de famille. Et le titre, c'était quoi? Immergé, presque, mais ça veut dire la même chose. Imbibé. C'était imbibé, ok? Et la question qui était posée, c'est est-ce que la parole a encore de l'effet dans nos vies? Est-ce que la parole a encore de l'effet dans nos vies? Quelqu'un a dit ceci: avant, les pasteurs luttaient pour que les chrétiens mettent en pratique la parole. Aujourd'hui, les pasteurs luttent pour que les chrétiens connaissent la parole. Et voyez comme le temps peut évoluer et faire glisser les choses du mauvais côté. En 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez quel était le thème de l'année 2022, année du retour à la parole. Je crois que ce retour n'a pas eu lieu, malheureusement. Ce retour n'a pas eu lieu. Et nous devons réellement nous interroger sur ce que nous faisons de la parole. On va lire ensemble le début du chapitre 8 de Néhémie pour voir ce que Dieu veut nous dire ce matin. Et pour m'être préparé pour ce message, je vous assure que c'est important ce que Dieu a à nous dire ce matin et qu'on ne doit surtout pas l'écouter avec légèreté. On lit à partir du dernier verset du chapitre 7, verset 73. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Néthiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Puis après, j'ai mis des petits points parce qu'on cite tous les sacrificateurs qui étaient à côté de lui. Puis un peu plus loin, il est dit: Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place ou se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains: Amen. Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. La fin du chapitre 7, nous l'avons lu, il est dit que chacun s'est installé, sacrificateur, lévite, les portiers, chacun est installé maintenant. La muraille est reconstruite, chacun est installé. Et donc maintenant que tout le monde est installé, qu'est-ce qu'on fait? Les travaux sont finis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait pour que tout cela devienne pérenne? Tout cela puisse être dans la continuité. Eh bien, ce que veut faire le peuple à ce moment-là, c'est revenir à la parole et s'attacher au commandement de Dieu. Amen. Ils avaient déjà commencé à le faire, on l'a vu au chapitre 5, quand ils ont relu les textes de la loi, ils ont vu que le fait de prendre pour esclave des personnes, pour prêter avec des intérêts, c'était interdit, et donc ils ont tout remis en place. Donc déjà, ils avaient manifesté ce désir, mais là, ils veulent aller plus loin. Ils veulent s'attacher à la parole. S'attacher à la parole, à ce fondement de la parole, c'est pas juste parler. C'est manifester une grande soif de la parole. Amen. Et j'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce texte pour voir cette soif, pour examiner cette soif qu'a eu le peuple. La première chose que je note, c'est donc que cette soif, elle n'est pas, c'est pas une petite envie, c'est une réelle aspiration, une réelle soif de la parole, c'est le premier point. On relit le verset 1 de Néhémie 8. « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. » Moi, je vous pose la question. Qui a soif ? Ce sont les leaders ou c'est le peuple ? C'est le peuple qui a soif. Intéressant. En fait, il y a deux possibilités. Je pense, peut-être vous en verrez d'autres. Il y a deux possibilités. Soit c'est les leaders qui motivent en permanence le peuple, ou c'est le peuple qui motive ses leaders. Quel modèle vous préférez ? Là, tout le monde baisse la tête. Ah, il est en train de nous piéger, là. Non, mais je vous pose sincèrement la question. Quel modèle vous préférez ? Le peuple qui motive les leaders. En fait, on se plaint tous. Et à un certain moment, la place des leaders et des pasteurs dans les églises était prépondérante. Et puis, on a fini par analyser, on se plaint. Mais après, quand les leaders veulent que ce soit le peuple qui prenne la place, je peux vous dire que... Difficile, hein ? Mais vous avez raison, le bon modèle, c'est celui du peuple qui motive les leaders. Je pense que c'est ça l'église du réveil. C'est quand les leaders sont dépassés par les demandes du peuple. C'est quand le peuple est tellement assoiffé qu'on est là, on dit « Comment on va faire pour répondre aux besoins ?» Les chrétiens de Colombie auront-ils soif de la parole en 2024 ? Il y a deux amen. Vous avez vu que dans le texte, hein, dans le texte, qu'est-ce qu'ils ont fait le peuple à un moment donné ? Ils ont dit « Amen et Amen !» C'est biblique. Voilà, c'est tout ce que je dis. Sommes-nous des imbibés ? Est-ce que les chrétiens de Colomiers sont des imbibés ? Est-ce qu'ils sont imprégnés de la parole ? Eh oui. Si oui, alors les chrétiens de Colomiers vont devancer l'aurore. Vous êtes là, les jeunes ? Vous savez ce que ça veut dire, devancer l'aurore ? Hein ? On a pu parler de ça en début d'année. Il y a quelqu'un qui a dit que l'avenir est pour les gens qui se lèvent tôt. Vous savez qui c'est ? Ce n'est pas mon modèle de référence, je vous rassure. Mais il n'a rien inventé. Parce que c'est la parole qui le dit. Mais pas pour la réussite humaine. Pour la réussite spirituelle. Devancer l'aurore, c'est avant que le soleil se lève, être dans la présence du Seigneur. En train de méditer sa parole. Oui ? Je ne demande pas à ceux qui le font de lever la main. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais je crois que les changements auront lieu quand les chrétiens devanceront l'aurore. Et vous savez que ça devient un vrai problème aujourd'hui ? Ça devient un vrai problème aujourd'hui. Parce qu'avec l'écran, les écrans, on se couche de plus en plus tard. Pour ne pas dire, on se couche presque pas. Et donc, résultat, pour devancer l'aurore, il y en a même qui n'arrivent pas à venir au culte le dimanche matin ou être à l'heure. Parce qu'ils se sont couchés tellement tard que c'est une vraie galère pour venir. Il y a des églises qui commencent à penser à ne plus mettre les cultes le dimanche matin pour que les gens puissent se reposer. Alors, moi, je veux bien hein, qu'on dise, ouais, on a besoin de grâce matinée. Oui, mais ok, si tu es fatigué parce que bah, tu as eu des temps difficiles. Mais quand c'est parce que tu te couches à 3 heures du matin, non, je ne suis pas d'accord. Hein. La nuit, c'est fait pour dormir. C'est même pas la Bible qui le dit, c'est scientifique. Hein. Vous analysez l'horloge biologique interne, comment elle fonctionne, etc. Quand il fait nuit, on doit dormir. Quand il fait jour, on doit être réveillé. Et d'ailleurs, certains qui font des travaux, qui travaillent la nuit, ils aimeraient bien de pouvoir dormir au lieu de travailler, n'est-ce pas? Ce sont des choses importantes que nous partageons là. Parce qu'on peut dire oui, l'Église de Colomiers a soif de la parole en 2024, mais c'est quoi que tu prends comme résolution? C'est quoi que tu prends comme résolution? Parce que c'est d'abord ton culte personnel. Un, comment toi tu médites la parole? Parce que quand je vois des questions élémentaires qu'on évoque avec certaines personnes et qui ne connaissent pas les bases, alors qu'ils sont au Seigneur depuis des années, c'est qu'ils ne devancent pas l'aurore. C'est qu'ils ne prennent pas le temps de lire la parole. Alors vous pouvez devancer l'aurore pour prier, pour dire Seigneur, tu bénis ma famille, Seigneur, vous faites votre liste des commissions, comme je dis hein, toujours. Si c'est ça, devancer l'aurore, vous n'allez pas observer de changement dans votre vie. Hein. Si devancer l'aurore, c'est se mettre à l'écoute de Dieu, là vous allez voir du changement. Amen. Les mardis soirs, études bibliques, la soif. La soif, elle vous conduit ici le mardi soir. La soif, elle vous conduit ici le mardi soir. Amen. On devrait avoir le même nombre de personnes en semaine que... Non, vous n'êtes pas d'accord? Quand on fait des week-ends d'église, on plafonne à 40 personnes. Alors que regardez ce matin, on est plus de 100, à l'œil comme ça, 150 au moins, on est. Et encore, il y a des enfants qui sont partis derrière. Le deuxième point, c'est une soif commune de la parole. Ce n'est pas quelques personnes dans l'église qui ont soif. C'est tout le monde. C'est ça qui fait avancer. Si ça repose toujours sur quelques personnes, c'est compliqué, c'est difficile, c'est même fatigant. Mais quand toute l'église se lève, comme tout le peuple s'est levé, d'un seul homme, waouh! Néhémie 8, 2, et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes, de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a les femmes. Faut se replacer dans le contexte, hein. Faut se replacer dans le contexte. C'est pas que les hommes. C'est les femmes. Mais je dirais qu'aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on se dit, hé, les hommes, vous êtes où? Mais c'est bien, le Seigneur est bon parce qu'il a prévu une réunion pour les hommes. Je vous rappelle, hein. Samedi 3 février, le matin, les hommes, on vous attend tous. Il y a tous ont soif. Tous ont soif. Les hommes, les femmes et les enfants, les ados, les jeunes. Est-ce que vous priez pour ça? Est-ce que vous priez pour que les enfants, les ados, les jeunes, ils aient soif de la parole? Ouais? Devons prier pour ça. C'est important. Et l'étude de la parole n'est pas réservée aux grands, aux adultes. Hein. Dès leur plus jeune âge, les enfants, on en a parlé dimanche dernier, je ne vais pas revenir dessus, j'ai encouragé les enfants. Dès leur plus jeune âge, ils peuvent commencer à connaître la parole. Qu'est bien fait quand on est là, les animateurs, animatrices de GIB, quand nous, avec les ados, on parle avec des jeunes et vous voyez que, pof, 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 ça répond, ils connaissent la Bible. On dit, waouh, super! Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Mais on le voit. Il y a un travail que doivent faire les parents. Parce que si vous dites que la parole c'est important, mais que vous ne la communiquez pas à vos enfants, il y a une espèce de contradiction. Les jeunes, les ados, les enfants. Joël, chapitre 2, verset 16, c'est un de mes versets préférés de la Bible. Il dit ceci: assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Amen. C'était pour un jeûne et prière. Hein. Je précise. Je pense qu'ils n'ont pas fait jeûner les enfants, vous inquiétez pas. Mais les enfants étaient là. Ils étaient là aussi. Quelle belle église quand elle se réunit dans son entier. Vous voyez ? Vous savez ce qui a marqué les gens pour la fête de Noël cette année ? Vous savez ce qui les a marqués, les gens ? Une chose qui les a émus et impressionnés, c'est de voir là sur l'estrade toutes les générations, ensemble. Les tout-petits, et puis il y avait quelques personnes qui sont jeunes depuis plus longtemps que les autres. Et tout le monde s'est régalé à vivre cette expérience. Et c'est ça l'Église, mes frères et sœurs. C'est ça l'Église, mais ça ne doit pas être une fois par an, ou uniquement le dimanche matin, mais à chaque fois qu'on peut se réunir pour entendre la parole. Certains, alors que nous, parfois, on boude les réunions, certains dans certains pays pleurent parce qu'eux ne peuvent pas se réunir. Et vous savez, c'est toujours pareil, hein, quand on est dans le confort, on regarde les choses. Hein. Ça ne vous intéresse même pas. Je me rappelle d'une fois d'avoir vu les images de missionnaires qui étaient allés en Inde et qui avaient offert des cadeaux aux enfants. C'était des petits trucs que vous achetez à la foire fouille, je ne sais pas quoi, des trucs, on les donne à nos enfants aujourd'hui, regarde ça. Quoi, ce truc ? Et les enfants, là, en Inde, ils étaient émerveillés. Et en fait, quand on est rassasié, on ne se rend plus compte des trésors qu'on a. C'est vrai ou pas ? Et c'est quelque chose contre laquelle on doit lutter, nous les Occidentaux, nous qui avons la chance d'être dans des pays libres, c'est de ne pas se laisser rassasier au point de dire « Oh, bon, il y a réunion, bon, pas grave, si j'y vais pas. » Peut-être un jour, il y aura les temps de persécution, on pourra plus se réunir et beaucoup vont regretter et se dire « Ah mince, quand j'avais la possibilité, j'ai pas fait. » Ouais. Ou quand vous serez hospitalisé, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais je discute avec les gens qui sont hospitalisés en longue durée, ils souffrent énormément de ne plus pouvoir se réunir avec les frères et sœurs. Notre prière depuis 12 ans avec Valérie, depuis que nous sommes arrivés ici, c'est que nous puissions vivre cela, chaque réunion que l'Église organise, que tout le monde soit là. Tout le monde soit là. Les vieillards, les enfants, les nourrissons même à la mamelle, les épouses, les époux, tout le monde. Amen. Troisième point, une soif et un grand respect. Dans cette attitude de soif, vous savez, on peut avoir soif et que ça parte dans tous les sens et on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et puis, des fois, on a soif aussi d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. Hein. Mais je voudrais voir avec vous l'état d'esprit dont le peuple fait preuve quand il manifeste cette soif. Néhémie 8, 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Il y a une capacité d'écoute là qui est impressionnante. Mais vous savez, c'est normal puisqu'il y a la soif d'abord. Quand il y a la soif, ben c'est pas difficile d'écouter. Et je bénis Dieu de cette écoute qu'il y a ici à Colomiers. Je bénis Dieu qu'on est encore dans une église où on peut prêcher pendant un certain temps et que les gens écoutent et partent pas en disant « Oh, qu'est-ce que c'était long ce matin ?» Je me souviens d'échanges que j'avais avec un prêtre lorsque j'étais dans l'Aveyron. On s'était liés d'amitié tous les deux. Et il était impressionné de se dire que nos prédications pouvaient durer jusqu'à trois quarts d'heure. Il disait « Mais les gens, ils t'écoutent toujours au bout de trois quarts d'heure ?» Je dis ben, « Merci Seigneur, oui. » Mais quand il y a la soif, quand il y a la soif, vous savez combien de temps ça a duré là ? Ça a duré une demi-journée. Hein. Une demi-journée où en plus ils sont plantés debout dehors. Et vous savez ce que disent les commentateurs ? C'est que ça a duré pas pendant une demi-journée, mais pendant 8 jours. pendant 8 jours. Et pendant 8 jours, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une attitude de respect et de grande soumission. Au verset 5, il est dit qu'ils se tiennent debout. Dans la version qu'on a lue, c'est qu'ils se tiennent en place, mais littéralement, c'est debout. Et en fait, ce n'est pas innocent le fait d'être debout, c'était une marque de respect. On ne s'assoit pas devant quelque chose qu'on doit respecter. Alors, ça ne veut pas dire que je vais instaurer à partir de la prochaine fois des cultes où vous devez rester debout, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que c'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur. Un grand respect à chaque fois que la parole est ouverte. Et puis, une deuxième attitude qu'on voit et qu'on a lu aussi, c'est qu'ils se sont mis à genoux, ils se sont prosternés. Quand ils ont entendu des choses qui n'avaient pas été lues depuis des années, ils ont été tellement touchés qu'ils sont tombés à genoux. Et vous croyez qu'ils sont tombés à genoux, pourquoi ? Pour demander pardon. D'avoir délaissé la parole pendant autant de temps. En conclusion, voilà ce que je voudrais dire. Et on lit le verset 9, qui est un peu plus loin que la lecture qu'on a fait en introduction. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dira à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Parce que quand ils étaient à genoux, ils se sont tous mis à pleurer. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Waouh ! On l'a posé la question, hein. La parole a-t-elle encore de l'effet ? Oui. Oui. Elle doit avoir de l'effet. Elle doit nous amener à la repentance. Elle doit nous amener parfois à être encouragés, à être fortifiés. Elle doit avoir de l'effet, la parole. Mais la parole aura de l'effet s'il y a cette soif. Parce que s'il n'y a pas la soif, il n'y a pas l'attention, il n'y a pas le respect, il n'y a pas la soumission. Tout ça va ensemble, en fait. Une réelle soif va accompagner toutes les attitudes qui sont propices à ce que la parole fasse effet dans nos vies. Hier, à l'île Jourdain, on en a fait encore l'expérience. La parole fait effet dans les cœurs. Les Lillois, vous êtes où ? Est-ce que vous pouvez attester que la parole fait effet dans les cœurs ? Amen. Hier, on a eu la bénédiction de voir une maman et sa fille, donc les deux sont adultes, hein, s'approcher, donner leur vie au Seigneur. Amen. Une maman qui venait pour la deuxième fois. Elle est venue au culte de Noël et elle est venue hier matin. Sa fille, elle, ça fait un petit moment qu'elle est en contact et qu'elle lutte, mais elle cherchait à s'approcher du Seigneur. Et là, devant l'appel au salut, ces deux personnes se sont avancées sur le devant. Et c'est la maman qui est venue en premier. Et elles étaient, on n'arrivait plus à les arrêter de pleurer. Mais c'est une grâce, une bénédiction de voir des hommes, des femmes qui se tournent vers Dieu. La parole doit avoir un effet dans nos cœurs. Est-ce qu'on se laisse encore émouvoir, toucher par la parole ? Ou est-ce que nos cœurs sont devenus habitués ? Pour que la parole fasse effet, je vais reprendre des choses basiques. Il faut d'abord la lire ou l'écouter. Ok ? Si tu dis « Seigneur, que la parole fasse effet dans mon cœur », mais que tu l'ouvres jamais, il va y avoir un problème. Mais des fois, on est comme ça, hein, c'est fou. Hein. On est capable d'être comme ça, des fois. On veut que Seigneur fasse des choses, mais on fait pas ce qu'il nous demande, la base. Après, il faut la recevoir. Il faut la recevoir. On peut avoir plusieurs attitudes, on l'a dit, il faut être respectueux, il faut être soumis. Et parfois, on entend la parole et on discute. Ah, mais il a dit ça, mais moi, je ne suis pas trop d'accord. Ah, machin. Ah, il a écrit ça, mais attends, je vais aller voir une autre traduction, machin. Et en fait, à des moments, ça nous dérange tellement qu'on essaye de voir si ce n'est pas autre chose quoi, que le Seigneur y dit. Laissons-nous interpeller. Et recevons la parole. Parce que d'abord, la parole, c'est une bonne nouvelle. Ça ne doit pas nous faire peur. Beaucoup parlent de la conviction de péché, et on a raison. Quand on lit la parole, on est convaincu de péché. Mais quand on lit la parole, on est convaincu qu'on est pardonné. Et oui. Amen. D'ailleurs, le peuple, si vous lisez le chapitre 8 en entier, vous verrez que le peuple, il n'arrêtait pas de pleurer. Et vous avez vu ce que faisaient les responsables. Ils disaient, bon, maintenant, vous arrêtez de pleurer. On va se réjouir maintenant. Et oui. Parce que la bonne nouvelle, le fait que notre péché était révélé, qu'on ait pleuré sur notre péché, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est le moment où Dieu peut pardonner. Et donc, si on est pardonné, waouh! Et puis, le troisième point, c'est la mettre en pratique. Si on l'a écouté, si on l'a reçu, mais qu'après, on oublie, ben, il n'y a pas l'effet. Et les bienfaits sont immédiats. Lorsque vraiment on est assoiffé de la parole, lorsqu'on la reçoit, lorsqu'on la met en pratique, les bienfaits sont immédiats. D'abord, c'est la transformation. Transformation de nos êtres. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit ceci. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et donc, c'est une grande transformation que nous sommes appelés à connaître lorsque nous lisons la parole. Une transformation qu'on ne pourra connaître nulle part ailleurs. Parce que nulle part ailleurs, personne n'est capable de rentrer en nous et de séparer jointure et moelle, de séparer ce qui est de l'âme, du corps, de l'esprit, enfin, les sentiments. Les... Même nous, on ne sait pas l'expliquer tellement c'est compliqué tout ça. Mais la parole, elle fait le travail. Amen. Et révèle des choses qui sont cachées, même des choses dont on ne se rendait même pas compte nous-mêmes. Elle est capable de nous y amener. Et non pas pour nous juger, nous condamner, mais pour nous libérer. Amen. Et le travail de guérison intérieure se fait aussi par la parole qui nous encourage. Quand vous lisez Ésaïe 43, où il est dit « Je t'aime d'un amour, tu es précieux pour moi. » c'est ça le message de la parole. Même si je n'ai pas grand-chose à montrer au Seigneur et à lui donner, il me dit que je suis précieux pour lui. Et puis, un autre bienfait, c'est la croissance en maturité, en foi. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Combien de gens j'entends me dire « Moi, j'ai la foi. » Mais en fait, leur foi, c'est juste une croyance. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous ne lisez pas la parole. Parce que la foi est basée sur ce que Dieu dit. Donc si vous ne lisez pas la parole, vous croyez, ah oui, il y a un Dieu. Il y a certainement quelqu'un là-haut. Quand on voit la nature, ah ben oui, forcément, il y a un Dieu. Ça, c'est des croyances. Ce n'est pas la foi, ça. La foi, c'est connaître l'enseignement de Dieu et de Christ pour pouvoir le mettre en pratique. C'est ça, la foi. Quand Jésus a été tenté, comment il a répondu au diable? Il lui a dit, il est écrit. Si Jésus ne connaissait pas la parole, comment il aurait fait devant le diable? Il aurait été bien embêté. Mais quand on répond au diable par la parole, il se tait. Amen. Parce qu'il sait que celui qui parle, qui a dit ces choses qu'on lui répète, il est plus grand que lui. Amen. Ah, je termine par mes vœux de 2024. Mon vœu pour 2024, c'est une grande soif de la parole. En chacun de nous. En chacun de nous. Une grande soif de la parole. Un retour à ce fondement qu'est la parole. Un cœur ouvert, une bonne terre, comme on l'a vu dimanche dernier. Un cœur ouvert, une bonne terre. Hein, on a vu, si on verse de l'eau sur un rocher, ça coule, hein. Mais si on verse de l'eau sur de la terre tendre, elle est imbibée. Amen. Et c'est ce qu'on veut être, imbibé. Et là, à partir de là, il y aura une transformation et il y aura une croissance. On veut la croissance de l'Église? On veut une croissance spirituelle? Moi, je parle de la croissance spirituelle. La croissance en nombre, elle doit suivre la croissance spirituelle. Si c'est juste faire du nombre, on peut faire du nombre. C'est facile de faire du nombre. Mais on veut une croissance spirituelle. Une croissance spirituelle, des transformations. On veut voir des gens changer. Des gens qui sont tristes devenir joyeux. des gens qui ont problème sur problème, passer dans une autre dimension de vie, de victoire. Amen. On veut voir ceux qui sont dans les ténèbres venir à la lumière. C'est ça qu'on veut voir, oui ? Amen. Mais c'est par la parole que ça va se faire. La parole, et on le verra, l'action conjuguée du Saint-Esprit. Mais la parole à la base. Est-ce qu'on peut prier quelques instants ? J'aimerais vraiment vous engager pour cette année 2024. Vous engager personnellement. Ce n'est pas l'Église que je questionne. Ce n'est pas l'Église que Dieu veut questionner, c'est toi qu'il questionne ce matin. Il te demande, est-ce que tu as encore soif de ma parole ? Si tu as encore soif de la parole, c'est bien. Continue, persévère, mon frère, ma sœur. Si peut-être tu t'es relâché, alors eh bien, demande pardon au Seigneur, comme l'ont fait le peuple. Ils ont un temps où ils ont pleuré. Ils disent, mince, on a laissé ça de côté pendant des années. Pardon, Seigneur. Est-ce que le Seigneur les a condamnés ? Non. Il leur a dit, maintenant, faites la fête. Et peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui découvre ça et dit, ah, pour être chrétien, il faut que je lise la parole, il faut que je connaisse les Écritures. Alors demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi, je vais me procurer une Bible. Si vous en voulez une, on vous en offre une. C'est gratuit. Et Seigneur, que je puisse lire ta parole. Je puisse devenir un lecteur, une lectrice assidue de ta parole. Que je puisse être de ceux qui se lèvent tôt. Se lèvent tôt pour méditer, pour voir ta parole. Personnellement, je l'ai vécu. Des changements que j'attendais dans ma vie et pour lesquels je faisais des efforts ont été voués à l'échec tout le temps. Et à partir du moment où j'ai pris du temps pour méditer, pour me tenir devant Dieu le matin, où j'ai pris des décisions, les changements ont eu lieu sans que je m'en rende compte. Ce sont les gens autour qui m'ont dit qu'il y avait ces changements. C'est le Seigneur qui fait cette œuvre en nous. Nous, on ne peut pas changer. Mais on peut changer si on décide de s'approcher de lui. De sacrifier du temps, d'être discipliné dans son sommeil. Ça, c'est une question cruciale aujourd'hui. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne devancerez pas l'aurore. Vous ne connaîtrez pas ces choses. Alors je vais vous engager ce matin. Je vais demander à ceux qui veulent prendre cette résolution de se lever à leur place. Et on va prier tous ensemble. On va prier. Seigneur, je veux pouvoir dire à la fin 2024, Seigneur, j'ai eu soif de ta parole. Que le Seigneur nous aide, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui, à la fin de l'année, dise « Oh mince, pourtant j'avais pris la résolution, je ne l'ai pas fait. » Mais le Seigneur va nous aider. Amen. Seigneur va nous aider. C'est un défi, comme on l'a vu. Si on veut construire sur les fondements, l'ennemi n'est pas d'accord. Et là, vous allez prendre des décisions. Et je vous explique tout de suite que le diable, il va faire tout pour que vous ne puissiez pas devancer l'aurore. Il va mettre, vous allez passer une mauvaise nuit, vous allez être malade, votre enfant va se réveiller toute la nuit, enfin, etc. Persévérez. Persévérez. Dieu ne vous tient pas grief si une fois vous n'avez pas pu. Mais persévérez. Ne lâchez pas l'affaire. C'est important. C'est crucial pour l'avenir de l'Église. Pour ton avenir personnel, ton avenir spirituel. Il faut que maintenant tu prennes cette résolution. On va tous devancer l'aurore. Amen. On va tous se lever de bonne heure le matin. Avant que le soleil se lève, on sera là devant la parole. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ton Église qui se lève. Merci Seigneur, parce que tous ensemble... comme un seul homme, comme le peuple au temps de Néhémie, on se lève devant toi ce matin. Seigneur Jésus, que ce ne soit pas des vaines paroles, ne soit pas des vaines décisions qui soient prises ce matin. Mais je prie au nom de Jésus, qu'à chacun de nous, tu donnes la force de tenir cette résolution que nous prenons ce début d'année, au nom de Jésus et pour ta gloire. Seigneur, oui, le combat sera là, mais nous allons tenir bon, parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Tu encourages mes frères, mes sœurs ce matin. Tu les encourages, et s'il y a des moments, il y a des échecs, tu les relèves, tu ne permets pas qu'ils se découragent. Seigneur, ensemble, nous voulons mener ce combat, et ensemble, nous voulons... porter ton nom dans cette ville et partout où nous sommes. Et on veut être imbibés de ta parole. Que ta parole se reflète au travers de nous. Que nous soyons ces paroles vivantes. Que tu as été toi-même. Tu es déclaré comme la parole. Nous voulons être la parole dans le fait que nous reflétons qui tu es. Oh Seigneur, merci de nous aider. Donne-nous cette soif. Remplis nos réunions à chaque fois qu'on étudie, on étudie la parole. Que chacun de notre côté, nous puissions faire ce parcours les uns les autres. Et merci pour ton aide, merci pour ta parole qui fait effet ce matin. Et nous rendons gloire à ton nom. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon.